Pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne suivent pas sur les réseaux sociaux, nous avons été nominés parmi les 4 meilleurs podcasts de l'année par une chanson d'addition lors des victoires du Rock et du Metal qui est organisée pour faire face à l'absence de la culture rock et metal dans les victoires de la musique française. Si vous voulez aller voter, tous les liens de nos réseaux sociaux où on vous donne le lien sont en description et le lien du formulaire pour voter est dans la description.
Le temps passé, 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 beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé?
On fait le bilan,
calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, 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 beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dark Side of the Prog, le podcast qui vous parle de musique progressive et progressiste. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce qu'en plus d'être le premier épisode bilan de l'histoire de l'émission, nous avons l'honneur, que dise la chance, d'avoir non pas un, non pas deux, mais bien trois invités en la personne de Guillaume Deveau, claviériste de Mobius. Salut Guillaume.
Salut tout le monde, merci de me recevoir.
Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes en compagnie aussi de Florent, chanteur et guitariste de Nord. Salut.
Coucou, content d'être là aussi.
Merci d'avoir accepté l'invitation, Flo.
Ben, au plaisir.
Et nous sommes donc en compagnie de Guillaume Bernard, guitariste de Clone et Polar Moon. Salut Guillaume.
Bonsoir à tous.
Donc déjà, merci à tous d'avoir accepté l'invitation. Ça nous fait très très plaisir. Et évidemment, comme habituellement, nous sommes en compagnie de Elodie, de la chaîne Le Vinyle. Bonjour.
Oui, j'ai accepté l'invitation également.
Mais bien sûr, vous avez... Mais ça fait fort bien longtemps que vous l'avez accepté l'invitation, Madame Vinyle.
Il est vrai, il est vrai. Je suis très heureuse d'avoir rejoint l'équipe. Et puis, bah, bonjour, bonsoir à tous.
Et évidemment, nous sommes en compagnie du beau, de l'homme le plus sexy de la région PACA, à savoir Léo. Bonjour Léo.
Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté, vraiment, ça fait très plaisir. Voilà, merci, je suis content.
Alors, comme dit au début de l'épisode, donc, c'est le premier épisode bilan de The Dark Side of the Prog. On a choisi un petit format un petit peu particulier, on va faire un top 3, donc chacun va faire un top 3. Donc, ce qui fait 6 top 3 et potentiellement donc 6 fois 3 albums très cool à découvrir, s'il n'y a pas de doublons. Je vous propose qu'on commence de suite, qu'est-ce que vous en pensez?
Allez.
Donc, pour ce premier top 3, je laisse donc la parole à Guillaume Bernard.
Alors, pour ce petit top 3, je me posais des questions déjà, parce qu'en fait, moi, j'ai des petits soucis avec les dates. Je sais pas si je peux me permettre de vous poser la question. L'album de Léprous, il est sorti quand? Il est bien sorti en 2020?
Il est pas sorti en 2019.
Ah, 2019, merde.
Excellent.
Pour Pitfalls.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ah, Pitfalls 2019.
Ah, merde, ouais, c'est pas ce qu'ils sont les, j'avais un doute, tu vois. ça commence super bien, ouais. Parce que, après, de mon côté, je vous avouerai que c'est pas que j'écoute plus de musique, mais c'est que les groupes que j'écoute le plus, c'est un peu ce que je sors aussi avec le label Clonesphere. Et il y a eu pas mal d'éléments de projets qui étaient assez progressifs et qui étaient très cool, où c'était un peu mes petits coups de cœur. Du coup, j'ai plus maxé, moi, certainement, sur la scène française, parce qu'après, il y a la plupart des autres projets. Enfin, moi, je vous avoue, dans la scène prog cette année, j'ai pas vu de grosses sorties qui m'ont baffé la. Particulièrement et donc voilà, alors qu'on a eu quelques sorties assez prog aussi chez Clonesphere cette année qui sont très chouettes et donc il y avait l'album Maudit pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté, qui est un album instrumental donc pas de chant, qui est assez tiré il y a des influences un peu à la Opeth dedans, il y a des influences aussi à la Godspeed You Black Emperor, donc qui serait plus un peu pour le côté un espèce de, il peut y avoir des éléments un peu post-rock progressif. Et donc c'est vraiment le projet qui a très bien fonctionné chez nous cette année en tout cas et qui musicalement moi, me parle aussi parce que c'est des références, les références du leader du projet sont aussi les miennes. Et donc voilà, donc il y a eu cet album Maudit, premier album éponyme. Et de mon côté j'ai aussi un autre projet français que j'aurais peut-être du mal à classer dans le prog mais qui s'appelle Howards, avec un album qui s'appelle Obstacle. Et bon, pareil, c'est des disques qui sont sortis un peu pendant le confinement et on a eu peur un peu qu'ils passent un peu à la trappe parce qu'évidemment il n'y a pas eu de tournée, de concert, etc. derrière, donc c'était un petit peu compliqué. Et donc voilà, Obstacle, c'est le premier album, oui. C'est le premier album d'Howards. Et il y a aussi bien des influences 70 dedans. C'est un trio. Il y a une guitare baryton, un mec qui est au Moog au synthé qui fait les basses et à la fois aussi les quelques éléments rythmiques. Il y a un batteur et voilà, c'est un chant qui peut être un peu typé Led Zepp. Pareil, ils ont plein d'influences aussi typé 90, moi qui me parle vraiment. Et il y a certains morceaux à rallonge aussi qui sont vraiment de bonne qualité. Et c'est en termes de composition bien abouti, je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. Donc je vous les conseille fortement. Et j'avais aussi pensé à un album que tout le monde aurait pu connaître, mais je me semble pas qu'il soit sorti. Je sais pas ce que c'est, le bruit qu'on entend. J'ai l'impression qu'on est dans la rue. Avec
ouais, il y avait une ambulance.
Ouais, je crois que c'est chez moi ça.
Et donc voilà.
C'est chez toi, oui.
Ah, d'accord.
Je viens de regarder.
Il faut fermer les fenêtres.
Est-ce que t'as une fenêtre ouverte, peut-être aller la fermer?
J'ai du simple vitrage. C'est le gros problème.
Ah, d'accord.
Aïe.
À Paris.
Eh oui, Paris.
Ouais.
Oui.
Petite question, le Steven Wilson aussi, il est pas sorti l'album encore aussi.
Il sort fin janvier.
Oui.
Fin
janvier. Alors c'est un petit peu particulier parce que il y a déjà pas mal de titres qui sont sortis.
Ouais. Moi j'ai juste quand même un gros coup de cœur sur le morceau. Alors j'ai perdu le nom exactement, je me souviens plus ce que c'est, mais c'est le morceau qui est animé là, qui est où il y a pas de guitare dedans, qui est très électro. Attendez. Au pire, je peux
King Ghost. Ouais.
Je vais vous le retrouver rapidement parce que j'ai souvent des problèmes à retenir les titres. Mais j'ai autant ce que fait Wilson en ce moment, moi je suis pas à fond dans ce qu'il fait. Mais ce titre là, King Ghost,
ouais.
Je sais pas si vous voyez lequel c'est.
Ouais,
ouais, ouais, il est trouvé très très beau, très simple, mais je sais pas, très joli. La petite ligne de voix en voix de tête là, je sais pas, elle m'a touché directement. Le clip est super chouette. Et du coup, voilà, je sais pas ce que va donner l'album complet, mais en tout cas, ce titre-là, j'ai trouvé que c'était du très bon Steven Wilson. Contrairement à d'autres morceaux que j'ai entendus qui m'ont vraiment beaucoup moins parlé, c'est dans les groupes prog de la scène connue cette année, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a touché et marqué. En tout cas, je sais que ce titre-là, j'étais vraiment très content de le découvrir de Steven et c'était plutôt une bonne surprise. Après, je sais même pas si on peut dire que c'est du prog, hein, parce que c'est vraiment juste, c'est très électro dans l'instrumental. La structure du morceau est très pop, il fait que 4 minutes 50. Donc après, je sais pas trop aussi par rapport à votre émission, parce que le progressif pour moi, ça peut être plein de choses complètement différentes et tout peut être progressif aussi quelque part. Et voilà,
mais c'est
personnellement,
ça.
Je suis plus proche de la veine actuelle progressive que les vieux groupes progressifs comme Dream Theater, les trucs comme ça, c'est pas trop mon délire, même si j'en ai écouté quand j'étais plus jeune. Je suis plus friand de groupes comme Catatonia, Anathema pour les scènes de ce style là quoi. Voilà, grosso modo,
bon,
ce que
Catatonia.
Je pouvais vous dire. Et le Catatonia, il paraît qu'il est bien aussi, mais je vous avoue que je l'ai pas assez écouté pour bien avoir un avis objectif dessus, mais voilà, pareil. Catatonia, j'ai aussi un peu lâcher l'affaire depuis quelques disques. Enfin, je suis moins touché. J'ai l'impression que j'entends un peu toujours le même morceau. Mais voilà. En tout cas, si je suis curieux d'entendre vos suggestions parce que sur les gros groupes internationaux. En tout cas, moi, j'ai pas eu de grosses claques de prog cette année en particulier, à part les groupes dont je vous ai cités. Et puis, je vais pas parler de Nord parce qu'il y a Flo qui est là. Et il va pouvoir se faire son autre promotion.
T'inquiète pas, il va pas être le seul à la faire, la promo.
Mais après, ouais, pour moi, Wenor, c'est progressif et en même temps, c'est pas. Il y a plein d'éléments de style de musique différents. Du coup, je les mettrai pas uniquement sous cette étiquette. Tu m'en voudras pas, hein, Flo.
Hein. Mais c'est sûr que le prog, tu mets énormément de choses dedans. C'est très 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 varié comme style. Et c'est aussi, je pense, pour ça que chacun d'entre nous, on aime ce style-là. C'est que tu peux autant avoir de l'électro que du métal, que du rock, du jazzy. Ouais. Enfin voilà, il n'y a pas de frontière.
Ouais, l'étiquette prog, ça nous donne un bon prétexte pour parler de ce qu'on veut. En fait.
Oui, bah, c'est très bien.
C'est ça.
Ça me va bien.
Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.
Et bien du coup, merci beaucoup pour ton top. Elodie, c'est à toi.
Ah bah attends, j'aurais bien voulu rebondir, moi, j'ai pas mal
de... Ah bah vas-y, alors.
Pardon.
Concernant les titres de Steven Wilson, c'est vrai que bon, c'est un album qui n'est pas encore sorti, parce qu'il était prévu normalement en juin, mais bon, il a été retardé, et il va sortir fin du mois de janvier, peut-être même que quand cet épisode sera sorti, bah, peut-être que l'album sera sorti, mais tu as dit qu'il y avait différents titres que tu as peut-être moins aimé de cette dernière production. Tu pensais auquel?
J'avoue, je me souviens plus des titres là. Je vois sous les yeux, par exemple, je vois Personal Shopper, je sais plus, mais je crois que j'ai écouté. Oui. Ça m'a le clip avec un clip un peu rigolo, un mec qui fait des courses dans un endroit vide. Je n'ai pas trop accroché là-dessus. Et il y en a eu un autre aussi, je sais plus ce que c'était, mais qui m'avait vraiment pas beaucoup parlé, qui faisait très pop, mais pop un peu chiant. Je sais pas.
Ah, Eminence Sleeve.
Ouais, après vraiment, je sais pas, ça m'a fait penser un peu, genre, pareil dans ce qu'il fait avec l'Israélien, là, dans pas Blackfield, mais comment il s'appelle l'autre projet qu'il a Si, c'est Blackfield. Non.
No Man.
Non,
il y a Blackfield, No Man.
Avec Given. Comment il s'appelle le mec? Putain, j'ai perdu le nom, j'ai écouté la donne il y a pas longtemps. No Music, je sais plus comment il s'appelle le titre, je sais pas si je suis trop mauvais, j'aurais dû les noter avant.
No Man.
No Man.
Oui, c'est
T'es sûr que c'est No Man?
C'est No Man.
Australien, je crois que c'est Blaise. Je crois que c'est plutôt,
oui.
Attends, je vérifie. Hein.
Allez.
Non, c'est, je pensais bien à Blackfield qui a sorti le titre que j'écoutais, c'était For the Music. Voilà,
ah oui,
j'ai trouvé ça un peu chiant aussi.
Enfin,
autant Blackfield, j'ai bien aimé les deux premiers albums que le reste, j'ai trouvé ça vraiment très moyen quoi, par rapport à.
Ah,
si on
carrément.
Compare à, par rapport à pas mal de choses qui ont été faites. Qui ont été faites par le père Wilson, mais donc voilà, ouais, j'ai en tout cas je suis pas le Steven Wilson, l'album complet, en tout cas j'ai peur d'être un peu déçu, je sais pas, c'est peut-être des a priori que j'ai, mais je me dis il peut y avoir des bonnes surprises après, hein, je sais pas, mais non les titres qui ont été lâchés à part celui dont j'ai parlé, les autres ça m'a beaucoup moins touché en tout cas.
Après,
ou pas donné
envie de
dire
que
chacun ses goûts, voilà, peut-être non.
Oui.
J'ai envie de te dire que Steven Wilson, quand il avait sorti différents titres de To The Bone, tout le monde était comme ça. Et puis finalement, ça a déçu, comme il y en a beaucoup qui ont été étonnés agréablement.
Ouais,
je fais confiance à mon génie Wilson.
Ouais.
Bah, c'est ça qui est intéressant avec ce gars-là, c'est qu'il sait faire de tout, en fait, et il fait de tout.
Oui, après, là-dessus, c'est sûr qu'il est très, très productif et on peut pas lui reprocher ça. Après, voilà, donc, j'ai l'impression que plus ça avance. Après, il teste des choses aussi. J'ai pas de soucis qui testent des styles différents ou des choses même plus pop, mais des fois, je sais pas, il y a des mélodies qui me touchent pas du tout et j'ai beau essayer 2-3 fois, ça passe pas, donc j'insiste pas quoi.
Ok. Quelqu'un d'autre veut réagir?
Moi, oui, juste sur le Catatonia, où effectivement, le Catatonia, bon, il est pas dans mon top parce que je le trouve pas non plus transcendant. Ouais. Moi, j'ai peut-être même plus ma préférence pour celui d'avant, The Fall of Hearts.
Ouais.
Ouais, mais pour le coup, Catatonia, déjà ça fait plaisir de le revoir parce qu'ils avaient entamé un hiatus qui a duré 4 ans, si je dis pas de bêtises.
Ouais, quand même, ouais.
Et franchement, l'album de Catatonia est très bien. Il y a quelques petites touches électro, c'est moins prog, je trouve. Mais l'album de Catatonia est franchement très bien.
Je vais essayer de me replonger dedans alors. Vérifier, peut-être dire. Et Manu, c'est toi qui as l'icône avec un black qui pleure, non? Y'a pas de vidéo chez toi, non, c'est ça?
Ouais, j'arrive pas le...
ah, d'accord, okay,
à mettre ma caméra.
C'est la tête qu'il fait quand il écoute du prog, en fait.
Voilà, alors moi, j'avais envie de réagir par rapport au Catatonia. C'est que je vais en parler plus tard, mais moi, au contraire, c'est un album qui m'a beaucoup plu. Mais j'expliquerai pourquoi après. Ouais. Mais voilà, je vais le défendre.
Eh bien, parfait. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter éventuellement? A priori, non. Bah, du coup, je laisse la parole à Madame Vinyl pour qu'elle nous présente son top.
Hello de son prénom. Alors, moi, au contraire, cette année, j'ai écouté blinde d'albums, mais c'est un peu normal avec moi. Vraiment, j'en bouffe un peu beaucoup. Et cette année, je trouve qu'on a été particulièrement gâtés en bon album. Il y a certaines années qui sont peut-être un petit peu plus compliquées. j'ai écouté énormément d'albums et là, je ne vais pas pouvoir citer tout ce qui m'a marqué parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Si jamais ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube Hello Vinyl, vous retrouvez tout le mois de janvier un album que j'ai décidé de chroniquer. Mais là, du coup, je me suis permise de vous en sélectionner 3 en mention honorable. Qui pour moi, je tenais vraiment à mettre la lumière sur eux. Le premier, c'est Vulcan, avec l'album Technatura. C'est un groupe qui est suédois et qui fait du heavy prog. En gros, si vous êtes des fans de Mastodon, si vous aimez Between the Buried and Me, foncez, c'est génial. Il y a une petite ambiance un peu tribal, avec une voix très puissante, des gros riffs de guitare et une petite flûte, franchement, un bijou, que j'ai découvert un peu tardivement, mais gros bijou, quoi. Tu voulais réagir ?
Je connais pas, moi.
Les références sont bonnes.
N'hésitez pas,
hein, vous m'intéressez, sinon moi je suis... dans la discussion, n'hésite pas, ouais.
Voilà, groupe que j'ai énormément aimé. Alors, deuxième, ça va être le troisième album de Emma Ruth Rundle, avec tout en duo. L'album s'appelle May Our Chambers Be Full. J'ai un excellent accent anglais, vous le remarquez. Alors, je tenais vraiment à le mettre dans le top, cet album, parce que c'est un album qui m'a complètement surpris. J'aime énormément Emma Ruth Rundle et tout ce qu'elle fait, mais habituellement, on est plus sur quelque chose de folk, ambiante, quelque chose de très calme. Et alors là, le shoegaze se mélange à du doom metal sludge. C'est formidable, surprenant et vraiment, je vous le conseille très fortement. Troisième album honorable. Ah, vas-y.
Oui. Attends, moi j'ai. Voilà. Alors faut savoir que cet album je l'écoutais grâce à Elodie, bien que je l'ai vu passer dans beaucoup de tops cette année. Et c'est un album que j'écoutais du coup il y a deux jours là et que j'écoute en boucle parce qu'il est. C'est un album très sombre, c'est pas facile à rentrer dedans parce qu'il y a du chant crié qui se mélange à une voix vraiment angélique, vraiment très belle, avec vraiment cet aspect très lourd du doom et du sludge et c'est vraiment. Vraiment, il passe très vite comme album, il dure 36 minutes de mémoire, je crois. Et c'est vraiment un super album. Et Elodie, si tu peux me permettre, on dit pas qui, on dit
c'est moi. Voilà. Et pour le coup, j'ai découvert l'album de Emma Ruth Rundle et Thou. J'y fais partie des petits rattrapages que j'ai entamés là, sur 2020. Enfin, sur fin 2020 et début 2021. Et effectivement, c'est un album, c'est un... Alors, il n'est pas très long, hein, comme l'a dit Léo, il fait moins de 40 minutes. Mais je pense que c'est un album qui nécessite pas mal d'écoute parce que c'est assez lourd, c'est assez plombant. Donc malgré le fait que ce soit très bien, je pense que ça mérite un petit peu, enfin même pas mal d'écoute en fait.
Ouais.
Je l'ai téléchargé ce disque aussi par curiosité. J'ai pas encore écouté bien comme il faut, mais j'ai entendu parler plein de fois partout et j'ai mis de côté aussi, mais j'ai juste survolé et je me suis dit ouais faut que je creuse, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse rentrer dedans comme ça super rapidement.
Ouais, c'est lourd.
Il a fait pas mal de bruit en plus, ce disque-là.
Ah non.
Donc c'était mon Emma Ruth Rudle avec tout, voilà, comme ça vous avez bien une mauvaise prononciation, vous êtes contents. Troisième album de mes mentions honorables, je voulais absolument parler de Lunatic Soul, qui a sorti un nouvel album qui m'a énormément surpris, parce qu'en fait, si vous ne le savez pas, Lunatic Soul, c'est un groupe mené par Marius Duda, qui est le chanteur fondateur de Riverside, aka l'un des meilleurs groupes de rock prog actuel. Et c'est en fait, flamme. Je suis vraiment très, très, très...
Ah, aka un bassiste de corps.
On va pas faire son CV. Et en fait, je suis très amoureuse de la carrière de Riverside, mais bien moins de la carrière de Lunatic Soul, parce que je trouve que les albums sont peut-être un petit peu plus anecdotiques et oubliables. Mais alors cet album, du coup, dont j'attendais rien, j'ai lancé la lecture comme ça, énorme claque, ambiance mystique, folklorique, un peu médiévale comme ça, ultra lumineux, ça passe tout seul, je suis vraiment sous le charme de cet album, la pochette est magnifique, tout, foncez-y dessus.
Ok, alors moi je vais être un peu moins dithyrambique avec. En fait, faut savoir que du coup Lunatic Soul, j'ai écouté l'album quand il est sorti. Et j'attendais beaucoup parce que vers septembre-octobre, je tombais à fond dans Riverside. J'ai poncé toute la discographie en long et en large. Je suis amoureux des trois premiers albums et de Love Fear de Time Machine. Et du coup, quand j'ai vu que du coup Marius Duda est sorti un nouvel album avec Lunatic Soul, j'ai attendu comme le Messie. Et j'ai pas adhéré du tout. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas un album qui m'a parlé, qui m'a charmé. Il faut que je le réécoute, mais ça m'a pas tellement plu. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais voilà, ça m'a pas touché. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter dessus ?
Je connais pas.
Soyez pas timide, je vais pas vous frapper. Hein. Vous inquiétez pas. Si vous aimez pas, c'est pas grave.
Non, mais c'est quelque chose que j'ai pas encore pris le temps d'écouter, moi, Lunatic Soul, mais c'est niveau formation, c'est dans le même genre que Riverside ou c'est un projet plus à l'opposé ?
C'est un projet qui va peut-être être plus... comment dire, moins créatif peut-être, je dirais, plus ambiante, tu vois. Moins, ouais. T'as moins de gros riffs de guitare, c'est beaucoup plus cool. C'est plus facile d'accès, on va dire ça comme ça. Donc, c'est moins intéressant, sauf ce dernier album.
Bah après, il a une voix assez incroyable, je trouve, Marius Duda, donc je pense que ça peut quand même bien s'y prêter, un projet plus posé. J'en suis sûr.
Complètement. Je t'y encourage vraiment à aller écouter si tu ne l'as pas fait. Sachant, comme je le dis, que le dernier album n'a rien à voir en termes de sonorité avec les autres. Mais je t'encourage. Okay. Je crois que c'est leur troisième album, si je... Non, quatre. Bon, ils ont beaucoup... Oh la vache.
Beaucoup plus, sixième ou septième.
Ils sont polonais aussi,
Oui, ouais. Tout à fait. Tout à fait.
C'est ça,
je suis polonaise moi-même, représente. Donc,
ah, d'accord.
alors, du coup, je rentre dans mon top 3. Je tiens vraiment à préciser que avant que cette émission soit programmée et avant que les invités qui font partie de cette table ne soient invités, j'avais déjà mis cet album à la place qu'il a. D'accord ? Ok. Donc, troisième meilleur album pour moi de l'année, et je rajouterai même le meilleur album français. C'est l'album.
C'est bon, je vois.
Qui s'appelle The Only Way to Reach the Surface. Alors, Flo est présent autour de la table et comment vous dire que quand il a accepté l'invitation, moi j'ai le cœur qui a, un peu comme maintenant, qui a battu à 1000 à l'heure.
Voilà.
Et un peu comme d'ailleurs ce que j'ai ressenti lorsque j'ai écouté l'album. J'ai écouté l'album un petit peu par hasard parce que j'ai un ami à moi qui me connaît très 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 bien, qui s'appelle Germa d'ailleurs, qui est un des deux animateurs du podcast Le Bruit, que je salue et que j'embrasse, et qui m'a dit « Il faut absolument que tu écoutes ça, tu vas adorer. » Mon Dieu, à quel point il avait raison. Alors, je vais devoir faire très attention à mes mots, parce que je suis écoutée de très près. Mais je sais que beaucoup de personnes disent que cet album fait un peu lecture aléatoire, un peu... partir dans tous les sens, mais c'est pas du tout ça ce que je ressens. Moi, je trouve que l'album est imprévisible. T'inquiète pas, ils sont plus en vie, je les ai.
Voilà. Non, je blague évidemment.
Mais je trouve que c'est un album qui est parfaitement imprévisible. Et ça, c'est ce que je préfère dans la musique, c'est quoi que je m'attende, c'est pas du tout ce à quoi je vais m'attendre. On a un moment de la pop, on a de l'électro, on a des moments où on va avoir un chant mais merveilleux, un cri. Oh, tout est parfait. Ça va être très difficile d'en parler, mais rassurez-vous, si vous êtes des habitués de notre podcast, on a fait un épisode spécial Colonosphère sur lequel je me suis longuement déchaînée à parler de cet album, où j'ai dit tout ce qui était possible et inimaginable, tout mon amour pour cet album qui est parfait. Vous avez tout, il y a du violon, du violoncelle, de la trompette, vous avez des voix incroyables, de la pop, de l'électro, vous avez une voix incroyable, c'est du metal prog comme j'aimerais qu'on en fasse plus, et punaise, c'est français, c'est incroyable. Lorsque je l'ai découvert, je savais qu'il allait être dans mon top. De toute façon, si vous êtes des habitués de la chaîne Hello Vinyl, j'en ai déjà fait une vidéo, et à l'heure où vous écoutez ce podcast, il y a une deuxième vidéo qui est sortie sur eux, voilà.
J'ai pas encore vu ta vidéo.
Ah bah voilà, c'est ici que Guillaume quitte le podcast, nous le remercions pour sa venue.
C'est quoi le titre de la vidéo, comme ça je vais le regarder direct après
La chaîne s'appelle Hello Vinyl.
Oui, ça, je vois, mais c'était quatre groupes à découvrir peut-être.
Ah, oui, c'est ça. C'est, je crois que c'était pour une sélection Bandcamp que j'avais parlé de Nord.
Ah, d'accord, je suis passé à côté.
C'est ça. Voilà. Donc je ne sais quoi dire de plus que, mais il le sait déjà. Merci Flo pour cette production qui a été non seulement une claque, mais que à chaque fois que je le réécoute, j'ai l'impression de le redécouvrir alors que je le connais par cœur. C'est là peut-être où on reconnaît les bons albums.
Ça fait toujours plaisir, écoute. Hein. Après, ils n'ont pas tort sur la lecture aléatoire, ceux qui disent ça dans le sens où, honnêtement, pour une fois, je me suis dit, je vais pas me braquer dans un style quand je vais écrire. Et on s'est dit ça même d'ailleurs tous les membres du groupe, pas que moi, même si j'apporte la base. ça reste, on s'est dit, allez, on fait ce qu'on veut, on colle le tout, et puis on peaufine après les transitions. Après, j'écoute beaucoup de Madcore. Le Madcore, c'est genre ce qui a fait un peu mon adolescence, ce qui est donc les trucs à la Dillinger, ce genre de machin-là. Et ce sont des gens qui ont tellement pas peur de faire des transitions brutes et vénères qu'au final, bah, c'est mélanger les styles. Au final, même quand j'avais 12 ans, que j'écoutais Dream Theater à fond à l'époque, ils le faisaient déjà, quoi. Là, c'est vraiment ce côté un peu, bon, on y allait brut, et puis bon, bah, je vais faire un peu de promo, mais heureusement, pas de Clonosphère, pas de promo pour cet album, parce que ça a clairement aidé à se faire une petite fanbase. Je dis pas qu'on a touché beaucoup de monde, mais déjà bien assez pour un groupe inconnu, et voilà. Donc encore merci Guillaume pour ce.
Merci Pat et Julie aussi, qui bossent avec nous sur la promotion du groupe. Et ouais, tu vois, moi, j'entendais, il y a un côté progressif, mais en effet, moi, je voyais plus comme un côté mat-rock aussi, c'est ce qui me viendrait direct à l'idée pour certains riffs, tu vois. Même s'il y a plein de choses, en effet, de l'électro, des choses un peu plus bourrines, même une énergie des fois un peu hardcore, il y a plein de choses qui sont mélangées. Et je l'aurais pas cassé dans le prog, tu vois, perso. Mais voilà, ça dépend des définitions qu'on en fait, toujours.
C'est clair.
Voilà.
Moi personnellement pour le coup, j'ai fait un petit rapprochement avec le grand nombre d'influences qu'il y a sur le disque de Nord. Moi, ça m'a fait penser à la même démarche un petit peu que peut avoir un Igor, donc qui est un groupe qui est assez réputé, et ça m'a fait assez penser à Igor dans la démarche.
Je n'écoute pas du tout.
Le dernier album, c'est sacré claque.
Pareil, moi aussi, je suis pas dans les nouveautés. Igor, quand j'écoutais l'album, j'étais pas fan à fond de ce qu'ils faisaient avant. J'avais déjà vu en live plusieurs fois. Il y a le batteur de Trépalium aussi, de l'Asso, qui joue.
Sylvain Brouillet.
Dedans, Sylvain. Et le dernier album, quand même, je suis curieux de voir ça en concert, en tout cas. Parce que c'est vraiment assez surprenant et puis très bien fait aussi. Ça arrive à mélanger plein de styles sans que tu dises, tiens, ça passe crème, quoi. C'est très très bien mixé, c'est très bien réfléchi. Les termes des instruments et tout, enfin, le mec, il est quand même. Assez balèze aussi en termes de compo, quoi.
Et en live, c'est vraiment à voir.
Apparemment, ouais. Mais mention spéciale aussi au morceau sur l'album, le morceau Musette Maximum, qui a réussi à me provoquer en moi deux émotions complètement différentes, à savoir la stupéfaction. J'étais admiratif, mais j'étais à la fois mort de rire. Parce que l'idée est vraiment incroyable. Mélanger de la musette et du métal extrême comme ça, fallait le faire.
Ah, moi, ce morceau m'a donné envie que. Enfin, j'aimerais qu'il se crée un genre entier de musette extrême, hein, clairement.
Ah oui.
Ah, grave.
Mais tellement.
C'est l'usage de l'accordéon. C'est un très bel hommage. Un très bel hommage à notre culture, je trouve.
Ouais.
Eh ben écoutez, vous êtes tous les trois réunis. Je vous propose, un petit mash-up, ensemble. Une petite collaboration.
Oula.
Ah là là. Bon. Est-ce que tout le monde a dit son petit mot sur ce groupe?
Non.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, moi, c'est... J'ai découvert l'album grâce, du coup, pareil, à Germain sur le podcast Le Bruit, et surtout à Elodie. Parce que je dois bien avouer que c'est vrai que quand il en avait parlé sur le podcast, j'ai dit, j'écouterai, pourquoi pas. Et Elodie m'a dit, il faut que tu écoutes, tu vas aimer. Et j'ai vraiment adoré. Parce que quand je l'ai lancé... C'est comme disait Elodie, je m'attendais pas à ça. Je lance et il y a le morceau Love, tout doux, électro. Et ça m'a vraiment pris. Et puis après, l'album, je l'ai pas vu passer. Et je l'écoute en boucle. Et je fais comme Elodie, c'est très rare pour le souligner. C'est que je finis l'album, je me le remets ensuite. Et c'est vraiment. C'est pour moi, comme dit Elodie, l'album, le meilleur album français qui est sorti cette année. Et surtout, c'est un des albums qui m'a le plus touché aussi cette année. Vraiment. Dans les morceaux, l'enchaînement Love, Violent Shapes qui me retourne à chaque fois, We Need to Burn Down Summary, tout l'album vraiment m'a retourné et voilà, il me tarde de bientôt me commander le vinyle, mais ça va pas tarder parce que voilà, j'adore cet album. Voilà, voilà.
Flo, tu me files le chèque à la fin de l'émission. Hein.
Oui, et ça est. Et toi, mais t'inquiète. Non, vraiment, vraiment, voilà. C'est du coup quand Elodie m'a dit que Flo serait là dans l'épisode, j'étais super content parce que voilà, je vous redis Guillaume Deveau, Guillaume Bernard et Flo, merci d'être là, vraiment ça fait super plaisir. Et puis voilà.
Pas de rien.
Eh bien, c'est là-dessus que je passe à mon deuxième album. Je vais essayer de te faire plus court. Alors là, on part en Roumanie, où j'ai découvert le groupe White Walls et l'album qui s'appelle Grandeur. Alors, que dire ? C'est du metal prog avec une alternance chant clair, chant guttural. C'est ce que je préfère. Avec le fait de, que ce soit dans tous les sens, hein, évidemment. C'est un album qui est sorti 7 ans après leur premier album qui s'appelait Escape Artist, que j'avais beaucoup moins aimé. Mais là, je vais être tout à fait honnête, j'ai découvert cet album par la pochette, qui est absolument somptueuse, qui est fait par un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Radu Damian, que je vous conseille d'aller voir, qui a des couleurs à la fois très saturées et très désaturées. Enfin, c'est un mélange un petit peu particulier qui est très très beau. Et donc, j'ai découvert par la pochette, je me suis dit, oh bah vas-y, je vais lancer. Mais alors, mais quelle claque, mes enfants! comment dire, est-ce que vous connaissez Léprousse? Mais je parle vraiment de Léprousse où il y avait à la fois du chant clair et à la fois du guttural. Vous voyez ce moment-là? Voilà, ouais. le Léprousse qu'on aime. Est-ce que oui. Vous connaissez Adjun Fresco?
Ouais.
Oui.
C'est australien ce nom? Non, c'est ricain. Je sais plus ce que c'est.
C'est islandais, Adjun Fresco.
Islandais perdu, d'accord. Mais j'ai entendu parler par les Australiens, je crois, de ce groupe.
Et est-ce que vous connaissez le groupe Carnivool?
Oui, bien sûr.
Oui.
Ouais.
Eh bien, vous prenez ces trois-là, vous mélangez tout ça, et ça vous donne l'album de White Walls. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que je parle de Carnivool, parce qu'en fait, celui qui est au mixage et au mastering de cet album, c'est Forest Seville. Et si vous ne connaissez pas, c'est celui qui se charge du mixage et du mastering de Carnivool et de Animals as Leaders. Okay. Tout est lié, voilà.
Ah oui,
donc vraiment un album qui m'a transporté. Et je petite mention spéciale pour les deux premiers titres de l'album qui s'appellent False Beliefs et Eye for an Eye, qui sont juste incroyables. La première chanson, voix claire, soprano, qui part très très haut dans les aigus, comme sait le faire notre cher Enar Sobel. Et après, qui part dans quelque chose de beaucoup plus violent, plus direct, merveilleux album. Je l'ai bouffé et rebouffé. Voilà. Et je vous le conseille, mangez-en.
Tu l'as bien vendu, en tout cas, en mélangeant Adjun Fresco, ouais. Carnivool. J'espère que tu t'avances pas trop, j'ai pas envie d'être déçu. Hein.
Grave.
Je te retrouve dans mes DM si jamais t'as besoin de te défouler. Et encore, tu vas voir le premier album, comment je vais te le survendre, fais attention.
Ah oui, je sais lequel c'est.
Bah bien sûr. Donc, je suppose que du coup, pas nombreux sont ici à connaître ce groupe roumain. Donc je pense que pour l'instant, vous ne pouvez pas trop réagir dessus. Mais vraiment, allez-y. Oui, petite précision quand même, merci à Nord d'avoir quand même sorti un vinyle rose fuchsia qui plus est, magnifique, qui va parfaitement avec la pochette, parce que autant vous dire que les deux premiers, il n'y a pas de vinyle. Je suis en train d'harceler dans les DM les groupes pour leur demander des vinyles. Je tiens quand même à préciser que mon album numéro 1 de 2019, c'était Obsidian Tide avec l'album Pillars of Creation, et je les ai harcelés pour qu'ils fassent un crowdfunding et qu'ils me sortent un vinyle. Ils l'ont fait, je vais recevoir mon vinyle. Je ne lâche rien.
Elodie, l'influenceuse.
Ah ouais.
Alors, numéro 1. Alors, ça va être très compliqué pour moi de parler de cet album sans vous. Enfin, vous avez remarqué, je suis un peu folle, un peu passionnée, mais alors le premier album, vous allez voir, ça va être quelque chose. Alors déjà, c'est pas un album, c'est un EP, mais il est tellement extraordinaire que j'étais obligée de le mettre en numéro 1. Donc, je vais pas durer le suspense plus longtemps. C'est un groupe californien qui s'appelle Celestial Amber et leur EP s'appelle Abscission. Alors. Que dire ? Je suis une amoureuse de saxophone. Dès qu'il y a du saxophone, je peux même pas vous dire ce que ça me fait ressentir. C'est incroyable. Alors, bon, les auditeurs ont l'habitude, je suis désolée auprès de vous de ce que vous allez entendre, j'ai une expression quand j'entends du saxophone, je dis que j'ai flaqué. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que... Dès que j'entends du saxophone, je rentre en transe, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Et alors là... Comment vous dire, c'est un album où on a du saxophone à foison, on a du chant guttural et du chant clair. En gros, vous prenez Tesseract et vous prenez The Contortionist, vous mélangez. J'aime bien faire des mélanges, vous avez remarqué. Et vous avez cette EP, 15 minutes seulement, 3 chansons qui se suivent. En fait, c'est vraiment une chanson unique parce qu'on n'a pas de fondu entre les chansons, ça se suit. Et c'est autour de la thématique du deuil. Donc vous avez les différentes phases du deuil qui sont expérimentées pendant ces 15 minutes. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans le deuil, donc vous avez la tristesse, le déni, la colère, la dépression et l'acceptation. Et c'est exactement ça. C'est une relation amoureuse qui se termine et c'est à quel point le chanteur est violent dans ses pensées, comme on peut être en colère quand ce genre de choses arrive, mais en même temps de se dire que rien n'est terminé. C'est somptueux. Et alors, le piano sur cet album, enfin sur cette EP, est somptueux. Et dernière chose que je voulais dire, c'est je note la magnificence du mixage entre leur EP là, qui est leur second, et le premier qui s'appelle There Exists, où le mixage était franchement dégueulasse, il faut le dire. Mais alors là, c'est somptueux. Je l'ai découvert en mars et dès mars, je l'ai affirmé, ce sera mon album de l'année, c'est sûr, certain. J'en ai même fait un article sur le webzinesoundbuzzer.fr. Vraiment, allez-y. C'est absolument merveilleux. C'est un EP qui m'avait été recommandé par Pauline, que vous connaissez peut-être, les membres autour de la table. C'est oui. La personne à la communication de Hypnose.
Oui, ok.
Voilà. Qui me connaît parfaitement bien et qui m'a envoyé ça en disant « Elodie, je pense que j'ai la chose pour toi. Pauline, je t'embrasse, mais tellement fort. C'est merveilleux. » Voilà. Je voulais un petit peu survendu, je crois.
Non. T'as été très mesuré dans tes propos, ça va.
Alors, je vais reprendre la main parce que je ne sais pas du coup d'autres l'a écouté. Moi, je l'ai surponcé, poncé. Grâce à Elodie, pareil, parce que elle a fait un article sur Soundbuzzer et elle m'a dit c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai écouté depuis très longtemps. Oui. Puis voilà. Après, tu n'as pas parlé trop de la musique en elle-même.
Vas-y.
Dans la musique en elle-même, on va avoir un mélange de beaucoup de choses. On va avoir vraiment du metal prog assez classique, du côté un peu gentil. Okay. On a une basse qui me fait énormément penser à Tesseract. Mm-hmm. Et Elodie Manu savent à quel point j'adore Tesseract, surtout Altered State, mais voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et du coup, je retrouvais des sonorités qui me plaisaient, et comme elle disait, le chant, ce chant à la fois clair et guttural, vraiment, c'est un album qui, pareil, un EP qui m'a beaucoup touché, dont je voulais mettre dans mon top aujourd'hui, mais j'ai plutôt choisi de parler d'un autre album. Voilà. Mais c'est vrai qu'après aussi, je pense que j'y réfléchis, l'album m'a beaucoup touché aussi, parce qu'il est très bon, et comme tu dis, la thématique du deuil et tout, il est tombé pile au moment où ça allait me toucher. Donc, voilà, c'est vraiment... L'EP est tombé au moment où j'avais besoin de cette musique-là, de ces paroles-là, et ça m'a touché d'une force. Je l'écoute au moins 3-4 fois par jour. C'est vraiment une très très belle découverte, et j'attends le vinyle. Et le t-shirt aussi, impatiemment.
Vous remarquez à quel point j'influence ces écoutes.
Ouais. Ouais. Pour le coup, étant dans l'équipe, ayant subi le... Comment dire ça, le martelage autour de ce groupe, j'ai fini par écouter. Disons que ma réaction n'a pas provoqué des mots doux. Alors bon, après faut être réceptif au genre. Et je dis pas que c'est mauvais. Hein. Il y a des très très belles choses dans Celestial Lumber. D'ailleurs, les parties saxophones sont très jolies. Et personnellement, moi, c'est pas forcément ma cam.
Ma tristesse est infinie.
Ah oui.
On va se battre.
Voilà, j'en ai fini de mon côté.
Eh bien, merci beaucoup, Elodie. Du coup, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, éventuellement ?
Non, c'est bon.
Il faudra écouter. Du coup,
je vais laisser la parole à Flo, du coup.
Ouais. Alors, ça n'a pas été évident, mais alors vraiment pas. Surtout que
Non, mais pour ton top, Flo.
Comme Guillaume, le prog, c'est un sens large, comme très serré pour moi, c'est-à-dire que dans ma tête, j'ai toujours eu, pareil, des trucs Dream Setter, Opeth, etc. Et c'est vrai que j'ai du mal à catégoriser, parce que j'écoute beaucoup de tout ce qui est post, tout ce qui est math, enfin bref, tous les trucs qui commencent par ces trucs-là. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc j'ai dû me balader un peu dans des playlists Spotify en me disant est-ce que ces trucs existent, sont considérés comme du prog dans ces playlists. Ça a été un peu un combat, mais je m'en suis pas trop mal sorti, je crois. J'espère.
On va te juger.
Alors du coup, en troisième... Oh non. Du coup, en troisième, je suis parti sur le Haken. Alors, je sais pas si vous écoutez un peu.
Ah,
oui, c'est un grand fan de Haken.
Voilà, donc il s'appelle Virus. Ça reste assez ambiant à mon goût. C'est une musique dans laquelle il faut qu'on s'immerge hyper facilement, en fait. C'est un groupe que j'ai vu en concert avant d'écouter. En fait, j'ai jamais réécouté. Pourtant, quand on va voir un concert et qu'on aime un groupe, généralement, après, on va saigner les albums derrière. Là, pour le coup, je me suis jeté dedans vraiment tout récemment et que sur le dernier album, je suis même pas allé réécouter le reste. Et je sais pas, c'est quelque chose qui m'a transporté. J'ai laissé courir pendant des jours et des jours. Je pourrais pas forcément parler de la musique en elle-même parce que je dirais pas que c'est un album original, mais c'est un album où j'ai mis play et je l'ai pas arrêté du début à la fin, alors que je sais que je peux être assez réticent sur la longue avec ce genre de musique. J'ai l'impression que ça tourne un peu en rond parfois et j'ai envie de jeter un peu à la poubelle ces morceaux. Ouais, je vous avoue, j'ai un peu du mal à en parler de celui-là. Je sais pas trop comment je pourrais prendre des références comme vous l'avez beaucoup fait, etc. Mais c'est, en tout cas, c'est un truc que je mettrais définitivement dans un top parce que ça m'a bercé. Surtout quand on a eu deux confinements cette année, donc on a eu le temps d'écouter de la musique. Et si je l'ai gardé, c'est qu'il m'a pas mal bercé. Et puis bon, bah, si j'arriverais à plagier des trucs dessus, ce sera avec grand plaisir. Hein. je blague évidemment. Mais je vais pas trop m'arrêter là-dessus, sauf si vous voulez. En parler pour ceux qui ont pris le temps de l'écouter.
Alors, pour le coup, moi je suis un gros fan de Haken. Mmh. Et bah en fait, c'est le groupe continue sur ce qu'il a fait avant. Donc, alors, faut savoir pour ceux qui connaissent pas le groupe, l'album qui est sorti cet été, en fait, c'est le deuxième volet d'un diptyque.
D'accord,
avec,
ah merde.
La première partie Vector qui est sortie il y a deux
Vector,
ans.
Vector, le premier.
Ouais,
tout à fait.
Qui est d'ailleurs excellent aussi. Et pour le coup, c'est un album qui est plus influencé un peu metal extrême. Il y a des passages vraiment très lourds, des passages qui sont très 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 lourds, très même très rapides. Et en fait, ce qui est assez ouf avec cet album-là, c'est qu'il arrive à faire des pauses. Moi, il y a un morceau qui me reste encore en tête aujourd'hui, c'est le morceau Canary Yellow, que je trouve sublime.
Incroyable.
Et pour avoir discuté un petit peu avec certains membres du groupe, j'ai l'impression qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et ça fait extrêmement plaisir parce que c'est des musiciens qui sont... C'est tous des tueurs dans ce groupe-là. C'est tous, techniquement, ils sont tous incroyables.
Ouais.
Ouais, cet album, je l'ai beaucoup aimé aussi, mais je m'étale pas trop dessus. Je vais faire de la redite plus tard lors de mon top, sinon.
Ah. Oups. Oh. Pardon.
Juste pour te dire, si jamais tu veux du coup redécouvrir Haken, personnellement je te dirais Visions, bijou de leur carrière, c'est mon avis.
Ok, je vais me jeter dedans.
Moi j'aimerais rajouter un petit quelque chose parce que pareil, c'est un album qui m'a beaucoup marqué cette année, qui n'est pas dans mon top 3, mais un album que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai été pas mal réticent durant à peu près un an et demi, deux ans à Haken. Je trouvais pas de choses qui me plaisaient. Puis je sais pas, cette année j'ai eu le déclic et j'ai poncé la discographie dans tous les sens. Et cet album est très très bon et je trouve même un chouïa supérieur à Vector. Et puis voilà, moi si je devais citer vraiment un morceau que en réécoutant l'album, il m'a sauté aux yeux. J'aime tout l'album, mais vraiment, le morceau The Strain, vraiment, il est excellent et puis... Je trouve que Haken ont une capacité à faire des refrains ultra catchy et qui rentrent pas mal en tête. Avec la voix de Ross Jennings et puis même, voilà, comme disait Manu, tous des tueurs dans ce groupe, voilà.
J'attaque le number 2.
Allez.
Allez, soyons fous.
Allez.
Là, j'ai un peu triché sur celui-là. Je sais pas à quel point ça peut rentrer dans le prog une fois de plus. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est un album qui m'a suivi toute l'année. Et c'est même peut-être celui que j'ai le plus écouté, je pense, cette année, et en particulier sur le premier confinement. C'est un album d'un groupe qui s'appelle Dance Gavin Dance. Je ne sais pas trop à quel point ça rentre dans le prog.
Oui, mais bien sûr.
Alors c'est quitte ou double ce groupe, en fait. C'est soit on déteste, soit on adore.
On va être copains, Florent.
Et c'est... en fait, c'est un groupe, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de mat-rock... ultra barré mélangé à du screamo, sauf qu'en fait ils arrivent à rendre ça mainstream avec un chant et des refrains efficaces. C'est-à-dire qu'en fait c'est un chanteur qui a une voix limite, j'exagère, mais bon, c'est presque du Justin Bieber dans la prod de la voix, quoi. Et à côté, Maroon on va avoir un mec. Ouais, Maroon 5 à mort, j'avoue. Et un mec qui gueule comme s'il jouait dans un groupe de screamo. Et l'album s'appelle Afterburner. Ça reste dans la continuité de tout ce qu'ils ont fait, mais en fait, si on s'arrête vraiment sur les instrus, c'est techniquement injouable, je dirais. Et c'est des trucs que j'ai, en tant que musicien en tout cas, que j'ai toujours cherché, c'est réussir à vendre en tout cas une musique qui va être hyper technique et en même temps hyper accessible. Bon, pour l'instant, c'est compliqué de résister à foutre un gros bordel, mais je trouve que eux, ils arrivent vraiment à équilibrer le truc, et dès qu'on a l'impression que c'est un peu peut-être un peu gnangnan, que ça sonne trop, peut-être trop radiophonique et presque trop accessible, et ben tout de suite on se prend des grosses baffes. C'est de la double pédale, c'est du tapping, bref, c'est techniquement assez imbouffable, et c'est ce que je trouve génial avec cet album. Voilà.
Il est d'autant plus excellent que c'est un album, quand tu l'écoutes, il va de suite te mettre de bonne humeur. C'est ouais. Vraiment hallucinant à quel point ils arrivent à faire un truc qui est compliqué à jouer, même à comprendre, hein, ça peut être assez difficile à comprendre. Oui. Et pourtant, c'est super lumineux. Franchement, ouais. L'album est excellent.
C'est un album d'été.
Et la pochette aussi est sublime.
Ça s'écoute sur la plage, c'est vraiment ça, quoi.
Ça s'écoute en vinyle parce qu'il y a des éditions magnifiques.
Oui. Alors, par contre, là, toi qui adores les vinyles, eux, ils ont un peu craqué. Pour le coup, ils ont dû faire au moins une trentaine de vinyles différents. Ce qui est quand même assez... voilà. Je sais pas si je l'aurais tenté, perso. Mais bon, ils ont le budget, tant mieux. Mais c'est vrai que oui, c'est voilà. À écouter, pour ceux qui connaissent pas, à saigner tout l'été, et même l'hiver d'ailleurs. J'attaque le premier.
Allez.
Alors celui-là, oui. il est plus facile. Là, il est moins étonnant. C'est The Ocean. Qui, je pense, qui pour moi rentre dans le prog, j'espère.
Je connais pas base,
complètement.
Complètement. Parce qu'à la base, ça sonnait quand même plus comme du Cult of Luna, un peu à l'époque, hein, en tout cas, comme du Cult of Luna. Bon, je n'ai pas envie de dire bas de gamme parce que j'aimais déjà à l'époque, mais voilà, ça sonnait très post-hardcore, lourd, etc. Ils ont eu la chance de faire une tournée avec The Dinger Escape Plan, justement, et à partir de là, on sent qu'ils sont un peu, ils se sont dit, allez, on va mettre des petites touches, parfois plus pop, parfois plus rock. Du chant clair, un changement de chanteur qui d'ailleurs est francophone puisqu'il est suisse. Et là, cet album, donc je vais pas me battre à essayer de vous dire le nom complet, mais c'est Phanérozoïque partie 2. J'irai pas plus loin parce que les noms sont imbouffables. Alors, autant dans le post-rock, on dit que les noms sont parfois trop longs à retenir, c'est chiant, autant eux, c'est juste qu'ils sont impossibles à épeler. Bref. Et c'est un album que j'aime beaucoup parce que... j'ai toujours été un peu réticent à leur mix. J'ai jamais aimé le mix de The Ocean, le mix CD, en tout cas, parce qu'en live, j'adore. Et là, pour la première fois, je trouve qu'ils ont fait un album où, justement, il y a un beau mix prog. C'est-à-dire que je sens des influences à la Tool dès le premier morceau. Il y a des trucs qui sonnent super hardcore, super violents. Il y a plein de feats, entre autres avec le chanteur de Catatonia, je crois.
Ouais.
Je sais plus trop.
Jonas Reske.
Ouais. Et en fait, c'est une tuerie. Je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que je suis un peu un fanboy de ce groupe. C'est hyper facile de le mettre en premier. Mais je trouve qu'il se laisse écouter et c'est un de leurs rares albums, en tout cas, où je me lasse pas au bout d'un moment de la recette The Ocean. Parce que je trouve hyper équilibré des morceaux instrumentaux comme des morceaux. D'ailleurs, ils ont fait un morceau promo qui durait 13 minutes 30. C'est là que je me suis dit que je pouvais le classer dans le prog. Je me suis dit, bon,
Jurassic,
ça rentre dans les cases, ça devrait le faire. Mais ouais, j'adore. Ceux qui ne connaissent pas, je leur conseille d'écouter sur plus la partie 2, du coup, cette qui vient de sortir, que la partie 1, qui est un peu moins accessible à mon goût. Mais faites-vous plaisir, ça déchire techniquement et musicalement dans tous les sens.
Bah, je trouve que si tu dis que tu te lasses pas de celui-là, c'est peut-être parce que je trouve que sur ce deuxième CD, ils ont un peu quitté la recette The Ocean, comme tu dis.
Ouais,
autant les albums précédents... c'était toujours extrêmement homogène dans le propos et dans la musique. Mmh. Là, à chaque piste, t'as une ambiance différente, je trouve.
Mmh. Tout à fait.
Ouais, puis même
mais
sur
pareil,
les deux albums. Je ne
peux pas m'étaler là-dessus tout de suite non plus.
Ouais.
Ah. teasing.
Oh, mince. Voilà.
Pour le coup, ce disque-là, ce qui est hyper intéressant, c'est que donc, alors, The Ocean, ils ont tendance à faire un truc qu'ils font en fait tout le temps, c'est qu'ils font des doubles albums.
Ouais.
Et donc là, comme Flo l'a dit, donc partie 2, et en fait, ça retrace donc trois périodes, je crois, de l'histoire de la vie humaine,
ouais.
D'où les noms absolument imbitables. Mais pour le coup, alors, si je me trompe pas, ils ont changé la personne qui s'occupait du mix. Parce que si je dis pas de bêtises, par exemple sur la première partie de Phanérozoïque, c'était l'un des deux gratteux de Cult of Luna qui est au mix.
Ouais.
Si je dis pas de bêtises. Et là ils ont changé, de toute façon ils ont lancé Pelagic Records, donc qui est leur propre label, mais ils sont aussi signés chez Metal Blade. Ouais, chez Metal Blade.
Ah bah.
Et vraiment la production est carrée, juste impeccable. Et le morceau Jurassic Cretaceous, pardon, est pour moi, depuis sa sortie, juste le meilleur morceau qui est sorti cette année.
Ouais, c'est...
Il est incroyable.
Et il me semble que sur la prod de cet album-là, il y a Chris Edrich, qui est notre ingé son aussi live avec Clone, et qui bosse aussi pour les Prousses, pour pas mal de... y compris The Ocean aussi sur le live. Et il me semble qu'il a participé aussi à la prod de ce disque-là, parce que j'ai vu son nom cité par-ci par-là, et je ressens un peu sa petite touche personnelle aussi dans la prod.
D'accord.
Ah, bien sûr, okay. qu'il a bossé sur le disque aussi, hein. J'ai vu citer ça pas mal de fois. Il est là. Il y a un petit français hein, dans la partie.
C'est ça. Du coup, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter?
Moi? Alors, moi je dois avouer que je suis un gros fan de The Ocean depuis la sortie de Phanerozoic 1, quand je les ai découverts, et c'était une assez grosse claque quand même, je l'avoue. Et puis après j'ai bouffé les albums genre Heliocentric et surtout ma mini Pelagiol qui reste pour moi encore à l'heure actuelle leur meilleur album. Je sais pas s'ils feront mieux, mais voilà, c'est vraiment pour moi The Ocean, c'était le parfait équilibre entre post-metal et metal progressif. Je trouvais vraiment un équilibre entre les deux styles. Et puis la voix de Loïc super, voilà, c'est un album voilà, que j'ai beaucoup aimé, mais au bout de plusieurs écoutes. Parce que quand Jurassic Cretaceous s'est sorti, j'étais comme un dingue. Et voilà, j'étais vraiment comme un dingue. J'étais en mode, allez, vas-y, j'attends l'album. Et puis j'écoute l'album, je vois Triassic, Jurassic, je fais, c'est trop bien. Et le reste m'avait mis sur ma faim.
Ouais.
Il manquait un truc.
Ouais, ça fait un peu effet pétard mouillé.
Quand j'ai fini, j'avais envoyé un message à Mayu et à Elodie pour dire en fait, l'album, c'est pas qu'il est mauvais, j'aime bien, mais les deux morceaux sont tellement puissants qu'il manque un truc. Et puis, en fait, à force d'écoute, j'ai découvert des morceaux comme Miocène ou Pléocène, et vraiment, c'est un album vraiment qui a grandi en moi, qui reste pour moi un des albums que j'aime le moins de The Ocean. J'ai préféré retourner vers un Pelagiol, vers la première partie de Phanerozoïque ou un Précambrian, mais voilà, c'est un album que j'aime beaucoup. Ils se sont renouvelés, c'est très bien, et puis voilà, j'ai hâte de savoir ce qu'ils font par la suite, mais voilà, j'étais un peu déçu, mais finalement c'est un album qui reste très haut dans mes tops et que j'aime beaucoup.
Ouais, je comprends l'effet un peu, comme on disait, l'effet un peu pétard mouillé, c'est vrai que les deux premières tracks, elles tabassent. Après, je suis pas du genre à tomber amoureux d'un album one shot, j'ai tendance à être un peu à les saigner, tu vois, vraiment beaucoup, donc c'est vrai que je l'aurais peut-être pas mis dans un top si il était sorti en décembre, juste avant la fin. Je pense que j'aurais quand même hésité. Là, j'ai eu le temps de le digérer, comme tous les autres albums que j'ai cités d'ailleurs. Je pense que s'il a survécu autant de digestion, c'est qu'il méritait d'être dedans pour moi.
C'est ça, oui.
voilà, j'avais pas de mention particulière. Enfin, j'ai signé beaucoup d'albums. Bon, j'ai beaucoup écouté celui de Clone, mais je me suis dit, pour les mêmes raisons que Guillaume, que vu qu'il est là, je vais pas trop débattre là-dessus. Le Maudit dont t'as parlé en plus, en fait, j'ai la chance d'avoir une copine qui fait beaucoup de chroniques, et du coup, elle reçoit les CD de la Clonosphère, donc on se les met dans le lecteur CD, on les écoute aussi en boucle. Donc le Maudit, je l'ai adoré, je le conseille, c'est un album éponyme, je le conseille aussi à fond. Et après, le reste, ça rentre vraiment pas dans le prog, je pense. Je suis allé me jeter dans beaucoup de... Le Biffy Clyro. J'adore Biffy Clyro, je sais pas si vous écoutez. Et, c'est encore hyper commercial, mais en même temps, je trouve que quand on écoute l'album, il y a plein de choses C'est tout. Il y a la balade, enfin la balade pour la petite minette, on va dire. C'est un peu stéréotypé de dire ça, désolé, mais c'est un peu ça. Et comme il y a des morceaux super rock, super bourrin, super punk, qui peuvent sonner un peu à la Frank Carter, ce genre de choses là. En fait, il y a tout dans cet album. C'est pour ça que j'aime autant écouter ça qu'un gros album de prog. Et en plus post-rock, il y a le Caspian. Si vous aimez bien des trucs un peu ambiants, reposants, je vous conseille cet album qui s'appelle On Circles de Caspian. Et ça, c'est musique au coin du feu, mais ça se laisse bien écouter. Voilà pour mon top.
Eh bien, parfait. Et bah, du coup, si personne n'aura quelque chose à rajouter, bah, on laisse la parole à Léo.
Ah, c'est à moi, c'est vrai. Ok. Alors, faut savoir que j'ai beaucoup suivi l'actualité musicale cette année, parce que j'avais peur de me dire, ouais, c'est peut-être que j'aurais pas assez écouté d'albums comme en 2019. Et du coup, je voulais vraiment écouter la balle de sortie, mais vraiment en les respectant, en les écoutant vraiment plusieurs fois. Et je suis vraiment tombé sur une soixantaine d'albums qui m'ont vraiment plu, quoi. Donc, c'était assez difficile à départager, mais voilà. En mention honorable, je vais faire beaucoup de name dropping, je vais pas m'attarder beaucoup sur les groupes, à part 2-3 trucs, parce que vraiment, il y a des albums que j'ai envie de donner envie aux gens d'écouter. Donc, le premier album qui m'a marqué en 2020, c'est The Outskirts of Reality de Yuri Gagarin. Alors, ça, c'est un album particulier, c'est du stoner avec des tendances très progressives et space rock. D'un petit groupe, je ne sais plus d'où il vient, je crois que c'est de Suède. Et vraiment, c'est un album tout en instrumental. Vraiment très intéressant, très planant, on a vraiment cette impression d'être dans l'espace, vraiment. Et vraiment, si vous donnez un seul morceau sur cet album, c'est le morceau One Aeronaut, je crois qu'il s'appelle, qui est vraiment 10 minutes, c'est une épopée spatiale. C'est juste génial, c'est lourd et planant à la fois. J'aime beaucoup cet album. Ensuite, j'ai envie de parler de l'album de Buckethead, qui est Healing Inside, Outside, Every Side. Voilà, un peu prononçable, imprononçable. Mais Buckethead, je connais une dizaine d'albums, et j'adore, j'aime vraiment ce qu'il fait. Et je l'écoutais par curiosité, vraiment, c'est un album qui... voilà, je sais pas si on peut rentrer vraiment dans le prog, mais... je trouve vraiment qu'il fait ce qu'il veut, il a des skills à la guitare vraiment fou, je trouve, même si je suis pas un excellent guitariste. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est un album qui est très reposant, qui m'a pas mal suivi cette année. Donc après il y a le Aiken, il y a The Ocean évidemment, il y a aussi Chaotic Divine de Reason. Ça c'est voilà pareil, un stoner doom avec des petites tendances progressives et un saxophone vraiment excellent, j'aime beaucoup. Et il reste encore 3 albums, donc l'album Kala de Mobius. Parce que vraiment, j'ai envie de revenir sur cet album parce que je l'avais découvert grâce à Manu pour faire l'épisode 2 du podcast. Et et Elodie me l'a rappelé ce matin, parce que c'est vrai que je force beaucoup avec cet album ces derniers temps, mais c'est vrai que sur le podcast, j'avais dit que l'album, je l'avais pas assez écouté. Il ne m'avait pas plus marqué que ça. Et puis je l'ai réécouté, je l'ai poncé, et puis je l'écoute vraiment presque maintenant une fois par jour, parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment un album qui, plus on l'écoute, plus on lui laisse le temps de rentrer en nous, plus vraiment il est envoûtant. Il y a vraiment ce côté très envoûtant avec les claviers, avec la guitare vraiment très gent, et ce petit côté oriental que j'aime beaucoup, et la voix de Il Andrea qui porte le tout, qui est vraiment un truc très chamanique que j'aime beaucoup. Ça, l'album de Nord, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure donc je vais pas plus m'attarder que ça, mais voilà, meilleur album français de l'année, vraiment, je l'ai surkiffé et je vais l'écouter encore longtemps vraiment, parce que voilà, je vais me procurer le vinyle dans les semaines à suivre, parce que vraiment c'est un album qui m'a beaucoup marqué.
Ma commission, Flo, ma commission.
Et pour finir, pour finir tout ça, vraiment, il y a aussi l'album de Tame Impala, The Slow Rush, qui est certes pas son meilleur album, mais que je défendrai toujours, juste pour le morceau One More Hour, et puis même, c'est vraiment un album qui m'a beaucoup plu en psychédélique. Et ma dernière grosse découverte en mention honorable, Point of View de Distant Dream. Ça, c'est du djent mélangé du post-rock, très planant, avec une magnifique cover. C'est excellent, c'est un tout petit groupe. Je sais plus comment j'ai découvert, sûrement à la pochette, mais vraiment jetez-vous dessus parce que c'est un super album et il mérite d'être plus écouté. Voilà. Maintenant, je vais passer vraiment à mon top 3. Troisième album, je voulais mettre Celestial Ember, mais je me suis dit que Elodie en parlera mieux que moi. Du coup, je vais parler de City Burials de Catatonia. Alors, comment dire ? C'est un album que je l'écoutais à sa sortie, que j'avais travaillé, que je me suis mis dans la voiture et j'ai. En fait, c'est le premier album de Catatonia que j'ai écouté. Je connaissais rien de ce qu'ils avaient fait avant. J'avais juste écouté le single Lacker de cet album et ça m'avait pas marqué plus que ça. Et puis l'album, je l'ai écouté, je l'ai trouvé sympathique. Et puis après, le même jour, il y avait un autre album qui sortait, dont je vais parler un peu plus tard, qui m'a plus marqué. Du coup, je l'ai un peu oublié, on va dire. Et dernièrement, j'avais parlé avec Raphaël, si tu nous écoutes, coucou, le guitariste de Seeds of Mary, qui est un énorme fan de Catatonia. Et du coup, il m'a dit, faut que t'écoutes, c'est l'album de l'année. Bon, pas non plus là, mais c'est vraiment un album que j'ai vraiment laissé le temps de rentrer. Et vraiment, il y a des morceaux comme City Glaciers, Vanishers, Earth Set to Divide. C'est vraiment un album qui m'a beaucoup touché et qui se prêtait plus au mood que j'avais en novembre, quand je l'ai réécouté, qu'en avril, quand il est sorti. Et vraiment, c'est un album que j'aime beaucoup. Qui, voilà, et puis voilà, après, j'ai foncé sur le reste de la discographie. Donc, Night is the New Day, Socket Cold Distance, Fall of Hearts. Vraiment. J'ai presque écouté tous les albums, et puis même j'ai un gros coup de cœur pour Great Cold Distance, qui est vraiment un album somptueux. Mais voilà, City Burials, pour moi, qui est un très bon album, et que j'écoute régulièrement parce que je trouve assez facile d'accès, vraiment, parce qu'il y a des côtés assez pop, on va dire, comme il y a des refrains assez qu'on peut retenir, des morceaux assez électro parfois, avec la cœur, que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est un album vraiment bien, et que j'avais envie... dire quand même, voilà, il est bien, certains moins bon que Fall of Hearts, mais il reste quand même très bon. Voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire dessus.
Le Catatonia, toujours.
Ouais.
Oui, le Catatonia.
Perso, pareil, c'est que j'ai découvert il y a longtemps ce groupe, j'ai découvert avec Last Fair Deal Gone Down, qui est un disque qui ouais, sonne très OPS aussi. Des fois, on aurait presque pu mélanger les deux groupes à cette période, j'ai l'impression que ça aurait pu fonctionner. Et après, pareil aussi dans. Viva Emptiness qui était pour moi un très bon disque, et en effet celui que tu as cité aussi, oui. Le dernier que j'ai vraiment beaucoup apprécié complet, c'était Night is a New Day, où vraiment cet album là je suis vraiment rentré dedans du début à la fin. J'aime beaucoup la voix du chanteur. Après le truc que je peux reprocher à Catatonia, je les ai vus pas mal de fois en concert, la sauce ça prend pas de la folie. Elle est jolie sa voix en fait. Moi j'ai un problème juste, c'est bizarre, mais la voix du chanteur et sa tête ça matche pas, et j'ai un espèce de blocage comme ça. Quand j'ai vu, je fais ah merde, c'est lui. C'est très bizarre en fait, quand on entend la voix du chanteur et tout, je sais pas, j'imaginais pourtant là, je sais pas, attiré par les hommes, mais je sais pas, physiquement il y a un truc qui matche pas entre sa voix, et du coup même ce qui dégage scéniquement, ça me bloquait un petit peu. Et après voilà, ils ont un peu Catatonia, le truc c'est ils ont une formule un peu toute prête des morceaux. Il y a pas de grosse surprise. C'est quand on connaît bien le groupe depuis longtemps, ils ont une formule, elle est appliquée à chaque fois un petit peu, et c'est le petit bémol que j'aurais par rapport à leur dernière sortie en tout cas. Mais j'ai vraiment été très fan de ce groupe, et j'en écoute encore aujourd'hui. Mais du coup c'est con, mais la musique c'est toujours une accroche un peu nostalgique, et un petit coup de cœur que j'ai eu il y a longtemps. Voilà, après à un moment t'es déçu, et puis après c'est dur de se raccrocher quand t'étais un peu déçu de bien se rebaigner dedans. Mais je sais que le dernier j'ai quand même un peu... J'ai écouté 4-5 fois, mais tu vois, par exemple, là, j'ai pas retenu de gros trucs en tête, toi, de refrains qui m'ont vraiment marqué. Mais voilà, bon, peut-être que je recrochais que des fois aussi, ce genre de groupe-là, faut vraiment bien prendre le temps de se poser. Mais ça reste du très bon, en tout cas, dans ce style de zik, là, ils sont dans les meilleurs, y a pas de soucis là-dessus, quoi.
Pour information, je viens de googler le nom du mec, parce que j'avais jamais vu sa tête. Et effectivement, il y a
gros
contraste,
quoi.
Alors, on va dire ça.
C'est le mec qui sort de sa grotte, quoi. Puis il y a vraiment une voix très très douce, quoi, qui est super jolie. Et tu t'attends pas, quand tu le vois, tu te dis pas, c'est pas qu'il va chanter comme ça, quoi.
Et quand tu vois les deux projets qu'il fait, c'est-à-dire Catatonia et Bloodbath, tu te dis que le mec, il est.
Il peut plus streamer maintenant.
Ouais, voilà.
Mais voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire du coup dessus.
Moi, juste personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur, parce que je suis depuis quelques années assez fan de Catatonia. Et j'ai eu un gros coup de cœur la sortie du single, parce que c'était le premier single du morceau de la cœur, que je trouve absolument magnifique.
Pareil, j'ai bien aimé cette intro-ci, quoi.
Et voilà, et du coup, pour en finir aussi avec Catatonia, j'y pense maintenant, c'est vrai. En cherchant des trucs sur Catatonia, parce que j'ai poncé la discographie il y a pas longtemps, je suis tombé sur une interview de toi, Guillaume, qui en parlait, je me rappelle. Celui qui disait pourquoi c'était l'album le plus important de Catatonia depuis longtemps.
Ouais, c'est vrai. Ça c'est des trucs un peu bizarres. C'était on avait je crois que c'est quand on a sorti le grand voyage chez Cascope, en fait il y avait eu bon, c'est un peu les trucs de presse, quoi, mais genre en gros on m'a demandé si j'aimais bien Catatonia, j'ai dit oui, et du coup on m'a demandé de faire un gros speech sur un de leurs albums qui m'avait vraiment marqué. Et voilà, le dernier en date que j'ai en tête, c'était celui que j'ai cité tout à l'heure, je crois, The Night is the New Day. Et je sais que ce disque-là, oui. j'ai dû l'écouter à une période de ma vie où ça matchait bien avec mon état d'esprit. Et enfin, en tout cas, pour moi, c'est un très beau disque, très bien produit et très varié aussi dans les ambiances. Et je sais plus ce que j'ai dit du coup dans l'interview, mais j'ai dû en rajouter un petit peu parce qu'on m'avait demandé genre de dire genre ouais. C'est
oui.
Vraiment, en fait, ce que le but c'était de faire de la com. C'était un article, je crois, qui mettait en avant un peu le c'était une sortie anniversaire de l'album. Je sais plus ce qui s'est passé exactement à l'époque et en gros, voilà, il y avait un média qui voulait qu'on.
Mais...
C'est des trucs de com où, en gros, voilà, t'as ton groupe et tu glisses ta promo pour ton groupe dans un truc où il fallait expliquer, en gros, dans quel sens ça m'avait influencé éventuellement. Je crois que c'était ça un peu le délire. Ouais.
C'est ça, ouais.
Et je crois que j'ai même fait ça pour un truc de Dream Theater alors que j'en écoute plus aujourd'hui, mais il y avait un disque à l'époque que j'avais. mais voilà, c'est juste. Scène from memory partout, je crois, celui-ci. Je sais plus, c'est celui que j'ai le plus écouté de Dream Theater qui m'est vraiment. Que j'écoutais un peu en boucle sur une période, et du coup, ouais, j'avais dû me mettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a 10-15 ans pour bien me remettre dedans. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas que j'ai aimé ces disques, quoi. C'est juste aujourd'hui, je suis pas bloqué dessus en boucle. C'est pas ce qui m'a.
Et donc, question de journaliste, Guillaume, à quel point Maître Gims a influencé Clone?
Ça, c'est pas du tout, je pense. Pas du tout, mais par contre, ouais, j'ai essayé d'écouter en fait, parce que c'est assez rigolo. En fait, pendant un moment, on a fait une tournée Unplugged avec Clone, on avait une accordéoniste avec nous sur scène, et en fait, son copain s'appelle Brian McCoy, c'est un américain qui est venu habiter en France, et en fait, lui, il a complètement accroché là-dessus, je sais pas pourquoi, mais genre, ça le rendait fou, quoi, et il comprenait pas les paroles et tout, mais ça le faisait délirer, et on s'est retrouvé avec le disque en tournée, avec le camion, et c'est horrible, parce que franchement, tu l'écoutes, tu le dis deux fois, mais t'as tout qui te reste en tête, et c'est horrible, quoi.
Ah oui, bah ouais.
C'est un métier. Hein.
Mais en tout cas, j'ai vu Dundalk, je suis intéressé au mec un peu et j'ai regardé. Il y avait un pote qui m'avait conseillé de regarder un documentaire sur Matt Gims en fait pour voir un peu comment il s'est construit, etc. Et c'est quand même un mec qui vient pas de nulle part, tu vois. Et même si j'aime pas ses morceaux plus que ça, il a quand même un certain talent. Et il y a même Sting qui dit un truc sur lui qui est quand même vrai, c'est qu'il y a une particularité dans sa voix qui fait que tu reconnais direct le truc, quoi.
Ouais.
Donc voilà.
Deuxième album de mon top, et là je vais parler d'un album qui sorti le même jour que le Catatonia, et c'est pour ça que j'écoutais le Catatonia et puis je suis rentré sur j'ai écouté l'autre qui est Omens de Elder.
Ah.
Et là bon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, ah là là, Elder, comment dire, c'est un des groupes qui m'a vraiment fait rentrer à fond dans tout ce qui est stoner prog, etc. Et vraiment, pour moi, je pense réellement que Omens et des Tasse Jour, j'ai pas peur, hein, leur meilleur album, vraiment. Parce que voilà, c'est une formation américaine qui fait vraiment du stoner progressif et qui, pour moi, depuis Dead Roots au Styring, ils avaient fait donc cet album-là qui était très bon, ils avaient fait Lore, qui était pour moi leur chef-d'œuvre, et Reflection of a Fucking World qui m'avait un peu mis sur ma faim, que voilà, j'ai découvert à l'époque où il y avait que cet album qui était sorti, l'album qui était sorti en dernier. J'aimais bien parce que voilà, mais je trouvais que l'ajout du clavier il était un peu hasardeux, je trouvais qu'il était pas assez développé. Et puis ils avaient sorti Golden Silver Station qui vraiment là, qui était tout en instrumental, où je m'étais dit il y a peut-être un truc qui va me plaire dans le futur, et Omen c'est sorti. Et déjà, la pochette était magnifique. J'ai pas écouté le single, qui était... Je ne sais plus si le single était le morceau éponyme ou un autre morceau. Mais voilà, c'était vraiment un album que j'ai beaucoup aimé, qui commence avec le morceau Omens, avec des petites notes de clavier, et puis bam, ça explose avec la voix du chanteur, dont je ne sais plus le nom, j'ai très bien travaillé.
Nick DiSalvo, il me semble.
Nick DiSalvo, merci.
Il n'y a pas de quoi.
Voilà, c'est pas le meilleur chanteur du monde, mais je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose de fort, que ça porte la musique, qu'il est pas trop en avant, ni noyé dans le mix, il est comme il faut. Et puis là, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé leur recette. C'est certes moins percussif qu'un lore, moins homogène qu'un lore, plus éthéré, mais les ambiances un peu éthérées, un peu ésotériques à la Pink Floyd, vraiment, je trouve vraiment du Pink Floyd dans cet album, et un peu de Genesis. Vraiment, c'est un album qui m'a profondément touché, qui est très, très planant, très puissant, et vraiment le morceau Alcyone est pour moi une des choses les plus belles qui est sortie cette année. Vraiment, Alcyone, si vous l'avez pas écouté, c'est vraiment un morceau de 12 minutes qui vraiment alterne entre vraiment côté très calme au début, et quand ça explose vraiment, il y a une décharge émotionnelle extrêmement puissante. Et puis voilà, il faut savoir que je l'ai écouté d'ailleurs, bah, du coup le matin dans ma voiture j'écoutais le Catatonia, et quand j'ai fini mon travail, je mets dans la voiture le Elder. Et là, méga claquasse, je rentre chez moi, je me commande le vinyle de suite. Parce que vraiment, cet album est monumental. J'ai pas d'autres mots, parce que vraiment, j'ai beaucoup de mal à en parler, parce que c'est vraiment très personnel, parce que j'ai vu que c'est un album qui est partagé. Mais moi, vraiment, c'est excellent. Vraiment, j'ai adoré cet album. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter dessus.
Moi, personnellement, je rajouterais que si les auditeurs veulent un petit avis un petit peu plus développé, ils peuvent aller très bien écouter de l'épisode 3 de The Dark Side of the Prog, sur lequel on en a parlé avec notre cher ami Loïs, rédacteur en chef de Granny Smith, Soundbuzzer, animateur de la Post Club, etc.
Qu'on salue, Loïs, évidemment.
Des bisous.
Voilà. Et du coup, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur l'album ?
L'or supérieur à cet album-là.
Mais, c'est compliqué.
Non négociable. Modérer la femme, modérer.
Et donc voilà. Ouais, c'est vraiment très très bien. Et là, par contre, alors je vous dis, j'ai pas pris de notes pour le premier. Parce que c'est quelque chose de très très personnel, voilà. En fait, l'album, en fait c'est même pas un album, c'est un EP. Et je sais, c'est un album, c'est un EP qui s'appelle The Black Moon, qui a été fait par Olyphone. Voilà, non, je vois Elodie qui est désespérée parce que je parle de ce groupe à tout le monde. Elle s'en va. Non, comment expliquer ? Olyphone, j'ai découvert grâce à Paul Brief, que on salue, et aussi Madame Walter Melon, que on salue aussi, qui sont deux personnes qui forcent beaucoup avec ce groupe. Et en fait, je l'ai découvert à sa sortie, cette EP. Et je devais pas être dans le mood parce que j'ai pas du tout aimé à la première écoute. Je suis pas rentré dedans, j'ai même pas écouté en entier alors que ça dure que 15 minutes. Mais voilà. Et puis je l'ai réécouté, c'était vers septembre-octobre, je suis retombé dessus. Et il s'est passé un truc avec cet album qui est que j'avais jamais été autant touché en musique depuis ma découverte de Tool, en fait, quand j'y pense. Depuis 2 ans. Ça faisait 2 ans que j'avais pas pris une telle claque musicale. En fait, Olyphone, je saurais pas vous qualifier ce que c'est. C'est un mélange de post-rock, de shoegaze, de doom, assez expérimental, mais avec un passage très éthéré et un peu screamo sur les explosions post-rock, un peu post-metal, vraiment c'est inclassable. Et vous avez 3 morceaux sur cet album, ça recommence avec Candy, qui est vraiment quelque chose d'assez lourd, une rythmique assez martiale, et puis ensuite des petites notes de guitare vraiment très planantes, avec ce chant et ses paroles juste belles, assez cryptiques mais très belles. Et vraiment le morceau qui explose à la fin, puis ensuite une interview de 2 minutes qui s'appelle Tethered, qui est très ambiante. Et puis le dernier morceau qui s'appelle Blood Pact, qui est vraiment pour moi le meilleur morceau de cette année. Qui est vraiment... c'est indescriptible, vraiment c'est un morceau, je l'ai écouté selon mon tracker Spotify, j'aurais écouté plus d'une 40aine de fois parce que vraiment ce morceau est vraiment d'une beauté, vraiment il commence tout doucement pareil, un rythmique un peu, je sais pas, très ambiante, très douce, puis ses paroles très belles, et puis quand ça explose vraiment il y a une explosion vers la fin où chant clair se mélange à chant screamé, que vraiment les musiciens vivent leur musique pour avoir vu des extraits live. Les musiciens sont à fond. C'est voilà, j'ai beaucoup de mal à parler de ce groupe parce que ça m'a vraiment profondément, une période où je savais pas trop, et vraiment j'ai jamais pris une aussi grosse claque depuis que j'ai découvert Tool. Vraiment, ça fait 2 ans. Et voilà, il faut savoir que leur album précédent qui s'appelle Death Spells est rentré dans mon top 10 des albums de ma vie très rapidement parce que vraiment c'est incroyable ce qui s'est passé avec ce groupe. Et que j'ai essayé d'en parler à tout le monde parce que vraiment, un seul truc sur ce que j'ai dit, c'est Olyphone. Écoutez Olyphone, c'est génial, voilà. Je sais pas si des gens ont quelque chose à dire dessus, mais voilà, c'est un groupe qui m'a profondément touché, que j'espère pouvoir voir en octobre à Bristol. Je vais aller à Bristol les voir parce que je. Voilà. Donc j'imagine que il y a d'autres personnes qui ont des trucs à dire.
Non, mais je peux conseiller le Death Spell de 2018 qui déchire.
Mais voilà, du coup voilà, et c'est vrai que cet album voilà, donc premier de ce top là, mais normalement mon album de l'année c'est Deftones, enfin c'est Homes of Deftones, mais ça rentrait pas dans la catégorie, mais je le place quand même, voilà, parce que j'adore cet album.
Par contre, Flo, t'as triché parce qu'il est sorti en 2018, ton numéro 1 là.
Ben non, c'est
l'album Death Spell, c'est sorti en 2018. Le P, The Black Moon.
Ah, The Black Moon, ok, oui. C'est bon, t'as pas triché.
Voilà. Guillaume Veille.
Non. Non, vous inquiétez pas vraiment. C'est excellent, et puis je l'écouterai.
Non, mais je note depuis tout à l'heure, il y a énormément d'albums, enfin des groupes dont j'ignore l'existence dans vos tops, donc. Je suis très curieux.
T'inquiète pas, on te contacte en MP, t'inquiète pas, on va te donner une petite liste rattrapage.
Ils ont sorti un single aussi. Ils ont sorti un single qui s'appelle The Maze, qui est une reprise de Manchester Orchestra, je crois que ça s'appelle. Mais c'est très très bon aussi, voilà. Leur discographie est très courte, mais c'est vraiment très qualitatif.
Et Flo, tu voulais dire ?
Non, bah c'est un groupe qui a une réputation live, justement, qui est assez conséquente. Ils ont pas mal joué en Angleterre, justement, et j'imagine qu'ils sont anglais, de toute façon. Et ça...
Ils sont américains.
Ah, bon, américains. En tout cas, ils ont un vrai public en Angleterre, et ils arrivent pas mal à se fondre sur tout ce qui est scène un peu post-punk, etc. Ils arrivent à faire pas mal de dates là-dedans, et ça déchire en live. Voilà, je conseille vivement.
Mais voilà, du coup, j'en ai fini avec mon tas. C'était un peu long, désolé, mais voilà.
À peine.
Et c'est tout pour cette première partie de bilan de l'année 2020 de The Dark Side of the Prog. On a décidé de vous diviser l'épisode en deux parties, déjà parce que l'épisode était très 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 long, et aussi c'est parce que c'est plus facile à monter pour notre cher Léo National, à qui on fait des gros bisous parce qu'il a beaucoup de travail, on lui donne beaucoup de travail. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième et dernière partie donc de cet épisode bilan, en espérant que cette première partie vous a plu. À la semaine prochaine, progueux.
Excusez-moi, et par contre, il y a quelqu'un qui arrive chez moi à l'instant, j'étais obligé de... C'est pour ça que ça sonne depuis tout à l'heure, je suis désolé. Je reviens dans deux secondes.
Oui.
A tout de suite.
Il n'y a pas de soucis. Nous t'entendons.
Alors, le petit point info, Maître Gims, si ça vous intéresse. J'ai un ami qui bosse, bon, pas en ce moment, et malheureusement, beaucoup qui bosse beaucoup avec le backline de gros artistes, etc., principalement de chansons françaises. Le batteur de Maître Gims fait de la double pédale sur scène. Et apparemment, ça non, c'est véridique. Apparemment, ça bourrine pas mal quand même, en vrai. Genre, un peu comme quand on va voir un concert d'Eminem où on se dit, bon, bah, le mec va venir rapper et ça sera. Il y aura la platine, etc. Et en fait, non, le gars, il est entouré de musiciens de ouf et ça joue, quoi. Après, évidemment, faut aller derrière. Faut passer derrière le personnage, quoi. Mais. Mais voilà, quelque chose que je retiens. J'oublie pas, on sait jamais. Il sortira peut-être un album de métal comme Bernard Minet dans 10 ans, on sait pas. Hein.
Oh, Maître Gims qui sort du métal, je serais très curieux de voir, tu vois.
Ouais.
Mais Maître Gims, si tu nous entends, tu as un défi.
Gims même, d'ailleurs, maintenant.
Ah, Gims, pardon.
Gims, c'est vrai.
Oui.
Il y a peu de chances si qu'ils nous écoutent quand même. À
si on m'avait dit que dans un épisode bilan de Dark Side of the Prog, on parlait de Maître Gims.
Ouais. C'est le nouveau prog, hein, que veux-tu?
Eh!
Maître Gims is the new Steven Wilson, quoi.
C'est ça?
Oh putain, non, non, non!
J'ai eu un AVC, excusez-moi, ça a duré 2 secondes.
Je suis pas venu ici pour entendre ça, par contre. Hein.
Ouais, voilà, merci! Merci! Bon, ça va, on a du coup un fan de Steven Wilson avec nous, ça veut dire?
Eh ben, pas tant que ça, figure-toi.
Ah.
Qu'est-ce que j'avais beaucoup aimé The Ravens That Refuse to Sing, c'est l'album ou c'est juste la chanson ça?
C'est la chanson et l'album, les deux.
Ouais, c'est... Celui-là j'avais beaucoup aimé, et la suite, mais j'ai Alex de Mobius qui me court après pour que j'écoute beaucoup Steven Wilson et que je suis fan comme lui, mais c'est pas encore arrivé, il faut que je donne encore quelques écoutes.
Je valide totalement son message.
Bon.
C'était sur le.
Alex, si tu nous écoutes, continue.
Ouais.
On parle de Steven Wilson.
Ouais, c'est sur le dernier c'est album aussi, que... ça, non ou...
Non, plus tout. Enfin, le reste de sa carrière, sur les deux derniers albums, c'est un peu particulier.
Ah oui. Mais, ouais.
Je vais pas pouvoir être très raisonnable et très modéré, vous avez remarqué, sur Steven Wilson, c'est-à-dire que j'ai la totalité de ce qu'il a réalisé dans, en discographie en vinyle, et c'est-à-dire qu'il a un onglet à lui, c'est marqué un dieu vivant. Voilà. Ouais. Mesurez, la femme, mesurez.
Mais à l'inverse, moi, c'est Porcupine Tree où je suis ultra fan. Hein, ce groupe m'avait vraiment
oui.
scotché.
Ah oui, pareil.
Hein. Ah, bien
oui.
sûr.
Ouais. C'était ah, oui. mon oui, premier oui. gros concert quand je suis arrivé à Lyon, et ça reste un des meilleurs 10 ans après. Hein.
Pour
c'était la tournée The Incident, où ils jouaient oh. tout l'album, plus une deuxième partie, il y avait l'écran, c'était au Transborder, c'était vraiment une grosse claque. Oh bien. C'était mon premier très gros concert tout court, je pense, donc clairement j'étais par terre.
Punaise. Je t'envie énormément, ce sera le regret de ma vie, ça, et de jamais avoir vu David Bowie.
Voilà. Ah, ça, ce sera plus compliqué, ça.
Ouais.
Oui, c'est sûr. Ouais.
En hologramme, ouais, en hologramme peut-être. Hein.
Hmm. Peut-être.
En hologramme, allez.
Ça se fait, ça va peut-être se développer. Ouais. En tout cas, pour Country, pareil, moi j'avais découvert. C'est un pote qui m'a fait découvrir ça avec l'album live Coma Divine, vraiment dans les tout premiers. Les tout débuts, quoi.
Ouais.
Et pareil, j'ai vu en live à Bordeaux pour In Absentia. Je sais plus ce que c'est une petite salle. À l'époque, c'était pas si gros. Il devait y avoir 250-300 pélos dans la salle, tu vois. C'était vraiment pas encore. Du coup, du tout à son apogée, mais ouais, ça reste dans le style en tout cas. Pour moi, c'est un peu un mélange Beatles, Pink Floyd, puis d'autres influences. Mais ouais, c'est quand même. Il est balèze. Ils sont en termes de compo, puis de production. Tout ce qu'il a sorti, c'est assez fou quand même. C'est un mec qui a du talent.
Ah oui.
Peu importe l'habillage derrière, il fait toujours d'excellentes chansons, quoi. Que ce soit un peu métal dans Porcupine Tree, plus pop aujourd'hui, ça reste des super chansons à chaque fois.
Ouais. C'est clair. Avec énormément d'influences de grands noms merveilleux. Je ne m'étale pas, sur Steven Wilson.
On s'est trompé de podcast, je crois, par contre. Là.
Désolé.
Non, mais vous inquiétez pas, je le mettrai à la fin, ça fera une discussion sympa. Là.
Donc si on fait un épisode sur Porcupine Tree, on sait qu'il faut inviter Guillaume.
Volontiers, je reviens tout de suite.
Thank you.